Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Vera Molnár est un peintre français d'origine hongroise, parisienne depuis 1947. Liée aux artistes de son temps, Brancusi, Herbin, Sefort, Soto, elle devint surtout une amie de Sonia Delaunay et François Morlaix. Cette femme intelligente travaille beaucoup sur ordinateur, ce qui lui permet de bousculer les lignes tout en maîtrisant leur complexité. Comme l'écrit Vincent Babille, Vera Molnár soumet depuis plus de 40 ans la ligne, le quadrilatère ou l'ovoïde aux lois compositionnelles, la répétition, la symétrie, dissymétrie, l'équilibre, déséquilibre et mathématiques, modulor, nombre d'or, suite de Fibonacci. De ses recherches sont nées dans les années 50 des œuvres qui anticipent et préfigurent le minimalisme.
On sait que la décade de l'ORTF a pour objet de définir l'état présent des recherches dans les différents domaines de l'art. En même temps, il s'agit de faire un inventaire, l'inventaire de 10 ans de création. Au cours de ces 10 années, des événements de première importance ont eu lieu dans tous les domaines. J'en choisis un qui se traduit par l'hésitation d'un certain nombre d'hommes à employer le mot que je viens d'employer, le mot « création ». Premier signe. L'homme, en tant qu'individu, tend à renoncer à l'emploi du mot « création ». Il cesse de s'attribuer les pouvoirs de démiurge. Pour lui, le poète, au sens le plus large, ne crée pas le monde. Il le découvre au cours d'une recherche. Il le constate. Et l'œuvre est une trace de la constatation. Elle est un sous-produit de la recherche. Attitude non méprisante, attitude modeste, attitude scientifique. Cette attitude, nous l'observons dans la littérature. Citons un nom, Michel Buteur. Dans la musique, disons Pierre Barbeau, Michel Philippot, Jeannine Charbonnier, d'autres encore. Dans les arts plastiques, des noms, Prodias, Philippe Muel, Vera Molnár, nous les écouterons dans quelques instants. D'autres remarques. Tout se passe comme si l'artiste, gardons le mot, renonçait dans son activité de recherche à toute attitude de désespoir. Le champ de l'absurde apparaît comme une des formes du lyrisme à proscrire. L'artiste moderne, quand il élabore, j'évite le mot création, renonce à exprimer un désespoir même si sa condition personnelle dans la société lui apparaît comme susceptible d'engendrer un désespoir. C'est la curiosité qui l'emporte. Il y a tant à apprendre, tant à faire pour savoir, et tant d'hommes ont déjà dit cet absurde et ce désespoir. Pour connaître, il faut apprendre, il faut chercher, le reste est abandonné aux philosophes de l'art, pas le temps d'être désespéré. Faut-il garder le mot artiste? Pour tout ce qu'il évoque de décadent, de romantique et de lyrique, non. Par quoi le remplacer? Aucune proposition satisfaisante n'est faite. Et dans la mesure où il désigne celui qui fait œuvre d'art, il faut bien le conserver. En sachant que l'artiste n'est artiste, n'est poète, que s'il se fait par un travail obstiné et rigoureux, logicien, mathématicien, ingénieur, organisateur. Pénétrons dans les arts plastiques. Faut-il continuer à distinguer le peintre et le sculpteur? La distinction perd souvent tout sens. Aucun des deux mots ne satisfait. C'est que la nouveauté fondamentale des 10 dernières années concerne la découverte de moyens d'élaboration nouveaux de l'œuvre d'art. À l'œuvre d'art du passé, individuelle, artisanale, unique, tend à se substituer, au moins au niveau de la recherche, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, une œuvre multiple. L'artiste découvre et met au point des procédés d'élaboration permettant de réaliser dans un temps très bref un nombre aussi grand que l'on voudra d'œuvres toutes différentes, chacune étant unique. Conséquence. on peut produire à bon marché des œuvres aussi belles ou plus belles. D'où une révolution dans la mystique et l'organisation du marché de l'œuvre d'art qui repose sur une croyance. La beauté est rare et chère. La réponse de 1967 est « La beauté est courante et bon marché ». Prodiaz et Philippe Muel, que vous entendrez tout à l'heure, représentent cette tendance. Ils vous proposent, c'est à vous de l'exiger, une beauté pour tous, une beauté économiquement accessible. Je n'ai pas le temps de développer les procédés techniques mis en œuvre. À plusieurs reprises, je l'ai déjà fait devant ce micro. Disons en deux mots que Prodiaz utilise les explosions et Philippe Muel les injections sous pression d'une matière dans un milieu de densité assez voisine. Par exemple, ce ne sont là que deux procédés parmi bien d'autres qu'ils ont mis au point. Les formes obtenues. Quelles formes pourraient encore déconcerter alors que l'œuvre abstraite est accueillie? Aucune. Disons que, dans le plan et l'espace, il s'agit de formes abstraites. Depuis 10 ans, dans le domaine des formes, un événement qui intéresse de fort près l'ORTF s'est produit, l'édification de la maison de la radio. Tout le monde en connaît la maquette ou la photographie. Au bord de la Seine, ou presque, deux anneaux concentriques, l'anneau central surmonté d'un donjon, les deux anneaux revêtus d'une armature métallique, unis par un bâtiment radial. Dans l'anneau extérieur, au premier étage, 4 foyers ornés d'une tapisserie de Pierre Soulages, d'une mosaïque de Gustave Saint-Gier, d'une tapisserie de Manessier, d'une mosaïque de Jean Bazaine, je les parcours, je les suis dans l'ordre, enfin, voisine, une composition murale de Georges Mathieu. Georges Mathieu.
J'ai entendu un jour Henri Michaud juger un certain nombre de peintres en fonction de ce qu'il appelait leur nervosité. Est-ce que cela vous paraît un critère satisfaisant lorsqu'on examine de la peinture?
C'est-à-dire c'est un critère actuel, n'est-ce pas? De même que la vitesse est un critère actuel aussi. Et je crois qu'il est assez intéressant. On a assez souvent fait des rapprochements, quelques rapprochements de la peinture actuelle avec les écritures extrême-orientales. Le public voit là simplement un rapprochement tout à fait extérieur. D'abord parce qu'il n'entend rien en général la signification de ces signes extrême-orientaux, et c'est simplement leur apparence d'inconnu qui lui fait associer ces signes inconnus à des signes d'une peinture qu'il ne connaît pas non plus. Mais il y a beaucoup plus dans ce rapprochement, c'est qu'il y a un élément de vitesse dans les écritures extrême-orientales qui sont tout à fait une sorte de conditionnement de l'œuvre pour véritablement actuelle aujourd'hui, dans ce sens que le monde classique utilisait une forme qu'il connaissait, qu'il avait maîtrisée déjà, il ne faisait que la recopier, et l'artiste n'était dans la plupart des cas qu'un artisan. Aujourd'hui, toute la notion du monde classique devrait disparaître ou disparaît, et il ne devrait plus y avoir d'artisanat.
Jean Bazaine.
Pour en revenir au rapport de l'artiste et du public, à quoi attribuez-vous leur divorce? Divorce qui semble plus sensible et plus douloureux pour l'artiste qu'auparavant.
Sans doute parce que le public avait moins conscience du témoignage profond et qui dépasse le plan esthétique que représente la peinture. Il veut participer, il sent qu'il le doit, mais quand il ne peut pas, quand il sent qu'il est hors du jeu, alors il se révolte, c'est le cas pour cette fausse querelle de l'abstraction qui a fait couler tant d'encre inutile, comme vous savez.
Alfred Manessier.
Lorsque vous êtes dans votre atelier, lorsque vous travaillez, dans quelle mesure arrivez-vous à vous abstraire complètement de la vie, des événements, de tout ce qui vous entoure?
Ça, je ne m'abstrais pas. Ça, la vie entre dans l'atelier. Et j'aimerais bien fermer la porte de temps en temps, enfin, mais je ne peux pas. Ça, je ne peux pas, la vie est là, et c'est elle qui me conditionne entièrement, c'est elle qui conditionne mes nerfs, c'est elle qui conditionne ma joie ou ma tristesse. Quand je vais à l'atelier le matin, eh bien, j'ai déjà reçu des autres, j'ai déjà reçu du monde une certaine atmosphère qui est très grise, très noire en ce moment, et il est très certain que c'est cette atmosphère-là qui mène le jeu. Enfin, c'est... Évidemment, on a un tempérament plus ou moins gai, plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux, mais il me semble, enfin, que c'est très difficile de se tenir loin des autres. Enfin, tout au moins, je ne le recherche pas, je ne le souhaite pas, au contraire. Enfin, j'aime me sentir près des autres, près de l'histoire quotidienne des hommes. Enfin, cette chose-là me semble absolument nécessaire.
Pierre Soulage.
Quand on regarde un tableau figuratif, il y a ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la composition, les rythmes et tous ces éléments de la peinture, mais il y a aussi la figuration et les rapports que cette figuration d'ailleurs entretient avec ce que le peintre en fait, avec la composition, avec tous ces éléments. Quand on regarde un tableau figuratif, le tableau figuratif renvoie au monde des objets que nous connaissons avec nos sens. Il y a des rapports de terme à terme qui s'établissent entre le tableau et le monde.
Oui, il y a une suite de références.
La table renvoie à la table, enfin, dans une nature morte, les fruits renvoient aux fruits que nous connaissons, etc. Le tableau de Picasso, Guernica, renvoie à un spectacle de la guerre d'Espagne. Une grande part de l'expression de ce tableau tient dans ses références à un spectacle réel, et aussi dans la distance qui sépare la figuration du cheval, de la femme, etc., de ce qu'ils ont pu être réellement. La déformation est un des éléments importants du tableau, qui est elle-même modifiée, qui prend un sens particulier par son appartenance à une composition pyramidale, à un ordre géométrique et implacable.
Gustave Saint-Gier.
J'avais ce grand mur et cette grande façade vitrée. J'ai immédiatement pensé qu'il était très important de faire entrer dans ce studio l'extérieur, c'est-à-dire presque de prolonger le paysage que l'on voyait. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé immédiatement, quand j'ai vu ce mur, d'employer la mosaïque, parce que j'ai eu très envie de couvrir entièrement le mur. Parce que généralement on dit, quand on fait une décoration, il faut respecter le mur. Moi je ne suis pas d'accord du tout, je crois qu'il ne faut surtout pas le respecter, parce que si on respecte le mur, on ne fait rien. Il fallait le faire oublier en somme.
On a compris que les 5 interventions que nous venons d'entendre, à l'exception de celle de Gustave Saint-Gier, ont été enregistrées il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, et dans 2 cas, il y a 17 ans. Nous revenons maintenant en 1967 pour interroger Prodiaz, Philippe Muel et Vera Molnar.
Philippe Muel, lorsque vous avez achevé une œuvre ou des œuvres, puisque compte tenu de votre façon de travailler, vous pouvez faire des œuvres en série, à qui voudriez-vous vous adresser? Et quel type d'homme souhaitez-vous rencontrer?
Tout dépend du prix que je peux vendre ces œuvres. Dans le cas, par exemple, si vous voulez, en prenant un point extrême qui n'a plus d'intérêt, les amateurs habituels d'art paient des peintures, des sculptures, je ne sais pas, pour citer un prix, entre 300 000 francs et 3 millions, par exemple. Alors ça, c'est une zone qui ne m'intéresse pas, si vous voulez. Dans tout ce que j'ai pu essayer, jusqu'ici, je n'ai jamais réussi tellement à faire des œuvres qui puissent se vendre moins de 25 000 francs, enfin, anciens francs. Ça, c'est d'ailleurs justement un domaine où c'est assez difficile de trouver un amateur. Je crois que, par exemple, on peut, pour situer les gens, si vous voulez, suivant leur pouvoir d'achat, parler tout bêtement de leur salaire, quelqu'un qui touche 250 000 francs par mois peut, à la rigueur, s'acheter quelque chose qui vaut 25 000 francs, enfin, une chose d'ordre artistique. Alors, il y a un autre domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est justement tous les gens dont le pouvoir d'achat est nettement plus faible. C'est-à-dire arriver à trouver un procédé qui me permette de fabriquer des sculptures qui seraient toutes uniques pour les vendre 2, 3 000 anciens francs, 5 000 grands maximum, si vous voulez.
Alors, est-ce techniquement réalisable?
Techniquement, je crois, oui. Actuellement, j'ai un projet qui devrait permettre de réaliser ça. Mais alors, le problème est de savoir si les gens qui sont prêts, enfin, qui peuvent dépenser 2, 3 000 francs, ont envie d'avoir une sculpture unique.
Je pense que la réponse, ça doit être oui. Disons sculpture ou peinture, enfin, oui, j'ai ça, envie de dire œuvre, oui. Parce que votre cas, dans celui de Prodiaz, dans celui d'un certain nombre de créateurs actuels, peinture, sculpture, peintre, sculpteur, ça commence à être des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, qui n'ont
pas de sens tout à fait précis. Alors, disons œuvre. Je crains qu'il n'y ait encore un réflexe assez fâcheux dans les esprits. Je crains que pour beaucoup, l'œuvre d'art ne soit par définition une chose chère, que par conséquent, ils ne peuvent pas s'offrir, et que l'on ne va voir que dans les musées.
Oui, mais alors, moi je parle d'une grande quantité de gens qui ne vont pas dans les musées. Mais il se trouve tout de même actuellement qu'ils sont informés, ça par la télévision. C'est très net sur un plan visuel, même s'ils ne réfléchissent absolument pas, ils voient des quantités de choses actuelles, que ce soit des œuvres, si vous voulez, ou de l'architecture, ou bien des décorations intérieures. À ce moment-là, les gens deviennent informés, c'est-à-dire que c'est de là, au fond, le pas à faire pour devenir client n'est peut-être pas énorme.
Non, je pense, tout comme vous, qu'ils sont informés. Et si je pense, par exemple, à des expériences très précises que j'ai pu avoir, j'ai pu constater que des gens appartenant aux milieux les plus divers s'intéressent très vivement au type de choses que vous faites.
Mais ça, moi, je l'ai constaté, par exemple, sur des chantiers. En faisant des choses sur des chantiers, les ouvriers ou les chefs de chantier étaient vraiment intéressés, si vous voulez, par ce genre de recherche.
Oui, ils veulent savoir comment c'est fait.
Ils veulent savoir comment. Quand ils s'aperçoivent qu'il y a justement une astuce technique, alors là, ils sont très, très contents. C'est une certaine façon de les toucher, si vous voulez. Ensuite, les résultats, mais ils l'apprécient ou ne l'apprécient pas, enfin, ça, c'est tout à fait autre chose.
Oh.
Mais ils sont toujours intéressés s'il y a déjà une recherche sur le plan technique.
Oui, et si le matériau concerné est un matériau moderne, utilisé suivant des critères modernes, c'est-à-dire
oui.
rapidement,
ah. oui,
la
d'accord.
notion de production en série les touche.
Oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas utiliser un matériau ancien d'une façon rapide. Enfin, c'est à peu près impossible. Tout ce qu'on pourrait, je ne sais pas, on pourrait envisager de tourner des objets en bois, par exemple, de diverses manières, mais ça ne donnerait jamais que des pions d'échecs ou des choses comme ça. Enfin, il faut aller un petit peu plus loin. Donc on est automatiquement amené à s'intéresser à une technique actuelle et à utiliser un matériau moderne. Ça, c'est presque fatal. Quoique, évidemment, il y a tout de même certaines techniques qui ont de l'intérêt. Ce sont les techniques de moulage sous les d'acier ou de fonte. Ça, évidemment, c'est pas absolument moderne.
Bon.
Au fond, ça n'a pas fait tellement de progrès.
Autrement dit, c'est contre un état d'esprit qu'il faut lutter, et je crois qu'il faut préciser qu'il est double. Chez ceux qui pourraient payer bon marché, il y a le préjugé, l'œuvre d'art est chère. Et
oui.
Chez ceux qui peuvent payer cher, il y a le préjugé, je veux que l'œuvre soit unique, je veux qu'elle soit rare, je veux qu'elle soit chère. Tout le monde est d'accord pour penser que l'œuvre d'art doit être chère.
Marquez, dans le second cas, il faut tout de même avouer que ce que j'essaie de faire, ce sont des œuvres qui seront toujours uniques. Elles sont donc rares du fait qu'elles sont uniques. Elles font partie, si vous voulez, d'une série, mais avec tout de même des variations suffisantes pour qu'on puisse les appeler uniques.
J'entends bien, mais je maintiens que l'amateur qui paie cher désire payer cher et que cet homme qui achète ses toiles à 1 million, 2 millions n'est peut-être pas disposé à acheter quelque chose 25 000 francs. D'abord, il n'oserait pas l'avouer, il n'oserait pas le montrer. Et puis, une chose, la notion de spéculation fond dans ses doigts.
Oui, ah, oui, il y a ça, évidemment, qui est très important. Mais alors, d'abord, je voulais simplement vous dire que c'est cette catégorie d'amateurs, mais au fond, elle ne m'intéresse pas. Je crois que c'est absolument impossible. Personne ne voudra jamais avouer qu'il a payé, comme vous le disiez, 2 000 francs une sculpture, 3 000 francs.
Oui,
ou alors, comme un petit amusement, mettre ça dans la cuisine.
Mais c'est ça, la nouveauté, c'est que le beau n'est plus rare.
Oui, mais l'amateur... plus rare, oui, mais comme l'amateur dont vous venez de parler est lui-même rare par définition, puisqu'il est riche, il n'a pas un intérêt énorme, au fond. D'autant plus qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il y a des quantités de peintres et de sculpteurs qui font de la sculpture et de la peinture chère.
Alors, est-ce que l'on pourrait admettre que deux marchés se créeraient dans le domaine des œuvres plastiques? Un marché d'œuvres uniques produites de manière artisanale, comme dans le passé, et qui serait cher. Et un marché qui serait réservé à tous ceux qui ne pourraient acheter que des œuvres non chères, mais qu'il faudrait convaincre de la nécessité de payer des œuvres non chères. Est-ce que, sur le plan économique, nous avons vu que sur le plan esthétique, ça fait des difficultés, sur le plan psychologique aussi. Est-ce que sur le plan économique, il vous paraît concevable que deux marchés parallèles semblables s'établissent?
Mais c'est assez difficile, parce que si, par exemple, le marché qui m'intéresse se développe, les techniques continuent à se développer, on arrivera, je pense, à produire des choses qui seront vraiment de qualité tout à fait équivalente. Quoi. Enfin, la même qualité que les œuvres qui se vendent très cher. Alors à ce moment-là, ça serait vraiment pratiquement de l'imbécilité de la part des gens de choisir une œuvre sous prétexte que l'artiste n'en fait que 10 dans son année au lieu de 10 000. Ça me paraît une raison assez stupide.
Bien sûr, mais on peut concevoir que ceux qui organisent le marché à leur profit, je ne les désignerai pas autrement, fassent l'impossible pour maintenir l'état de choses du passé.
Ah,
et que par
oui,
conséquent,
ça...
sur le plan esthétique, ils soient amenés à combattre des œuvres qui seules répondent à une demande moderne.
Oui, mais c'est justement, c'est une des difficultés, parce que c'est la distribution, si vous voulez, de ce type d'œuvres. Il dit, hors de question de passer par les gens dont vous parliez, il faudrait passer par, je ne sais pas, des magasins, et ça c'est très difficile. C'est tout à fait nouveau pour des magasins. Je ne vois pas très bien quel autre système de distribution on pourrait envisager, mais enfin ça me paraît pas mal, même des magasins du type coopératif, vous savez, comment ça s'appelle, supermarché ou choses comme ça.
Oui.
Ça me paraît très intéressant.
Autrement dit, il faudrait que, dans ce type de magasin par exemple, viennent à naître des rayons d'œuvres d'art qui soient de véritables rayons d'œuvres d'art. Car
c'est
ce
ça,
qui
oui.
est étonnant, c'est que si je vais dans un grand magasin, au rayon des chaussures, j'achète des chaussures. Et je peux trouver de bonnes chaussures.
Oui.
Au rayon des chaussettes, je vais trouver des chaussettes et je peux trouver de bonnes chaussettes. Mais si je vais au rayon dit des œuvres d'art, ou qu'on
justement,
ne désigne pas
sous
ce nom, actuellement, je ne peux avoir que des infamies.
Oui, alors non, ça dépend. Ça débouche sur un nouveau problème, c'est le problème de la reproduction. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis persuadé que ça n'a aucune espèce d'intérêt. On a toujours fait des reproductions. Alors, si vous voulez, dans les magasins dont vous parlez, on peut trouver soit des reproductions...
Que j'écartais.
Écartées quand elles sont des reproductions d'artistes vivants, d'artistes morts, bien entendu. C'est très intéressant, si vous voulez. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Quoi. C'est... De l'autre côté, alors, il y a évidemment je ne sais pas comment appeler ça, certaines peintures à la chaîne, si vous voulez, des couchers de soleil, des choses comme ça.
C'est
alors,
ce
ça,
que je disais.
Je pense justement que les gens commençant à être un peu plus informés, ils en auront vite assez de ces couchers de soleil, il me semble. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai l'impression que ça va arriver. Voyons tous les soirs leur télévision avec des décors ultra-modernes, des œuvres modernes dans les maisons, enfin, dans les appartements où se passent les pièces de la télévision. Ils commenceront à trouver que ça fait un peu vieillot, ces couchers de soleil. À ce moment-là, on se demande ce qu'ils peuvent acheter. Ils ne peuvent pas s'acheter, vous l'avez dit tout à l'heure, une œuvre chère. Donc je pense que c'est une clientèle possible.
J'ai dit tout à l'heure que l'œuvre d'art, dans le domaine plastique notamment, c'est vrai dans les autres domaines, semble-t-il, est une constatation. Prodias, pouvez-vous définir une de vos constatations ?
Je parlerai des ce que j'appelle des mouvances d'asphalte. Attention, le mot mouvance est employé là en tant que mouvement, plus du tout dans le sens que l'on trouve dans les dictionnaires, c'est-à-dire féodal, vous savez, suzeraineté. Bon. Mouvance d'asphalte, donc, signifie mouvement sur de l'asphalte. Pourquoi de l'asphalte ? C'est un liquide que j'ai employé comme curseur. Pourquoi l'asphalte ? Parce qu'il va se figer au bout d'un moment, et par conséquent, son état liquide disparaît, et donc laisse apparaître une, comment pourrais-je dire, une certaine permanence de ce qui s'est produit dans le liquide. C'est-à-dire le mouvement n'est plus éphémère, comme ce qui peut se produire dans tout liquide, mais tout d'un coup reste d'une manière permanente.
Mais alors comment noter ce mouvement ? Comment le constater ?
Eh bien, le plus simple des mouvements que l'on puisse remarquer dans un liquide, c'est le déplacement du liquide, le dérangement du liquide par un corps qui s'introduit dans ce liquide. Nous connaissons tous l'expérience très simple que nous avons tous constatée. Un simple caillou jeté dans un lac provoque des ondes. Bon, c'est en somme ce spectacle d'ondes que l'on peut remarquer sur une nappe liquide, mais qui disparaît une fois que cette masse liquide a retrouvé son équilibre, de manière plus ou moins lointaine, mais enfin, l'équilibre est rétabli et l'onde, donc, a disparu. Ce que je voulais, c'était justement conserver le parcours de l'onde, le programme, donc, de l'expansion, le graphisme de ces ondes. Et sur l'asphalte, ça a été possible, car au bout d'un certain temps, temps X d'ailleurs, on peut dire, puisque c'est une question de ce que peut contenir l'asphalte en particules volatiles, qui le fera se figer, se durcir, au bout d'un temps qui peut osciller entre quelques heures et quelques jours. Bon, enfin, de toute manière, ce qui était important, c'était d'atteindre la fixation, en somme, de ce liquide par son état après s'être figé, en somme, le liquide devenait un élément dur. Sur ce liquide, donc, j'avais posé une masse lourde qui entrait dans le liquide, qui dérangeait le liquide. Mais ce que je voulais, justement, c'est que cette masse lourde ne soit pas un corps compact, mais une masse diffuse. Et j'ai employé pour cela des métaux en poudre, qui, en pénétrant dans le liquide, provoquaient donc des ondes, une expansion naturelle. L'expansion, le déplacement du liquide, emportait donc avec elle, je veux dire, le liquide emportait donc avec lui-même, en expansion, le métal en poudre. Et j'ai obtenu, après plusieurs expériences, ceci c'était une manière de voir ce qui allait se produire, et puis petit à petit, eh bien, remarquer les différenciations qui pouvaient se produire entre tel métal et tel autre métal, le poids du métal intervenant d'ailleurs directement dans la manière par laquelle pouvait se produire l'expansion. Il était donc facile, ensuite, par les différents métaux, d'obtenir des résultats différents également. Donc, supposons, je prends un aluminium en poudre et je le pose une masse, mettons de 100 grammes ou 500 grammes ou 1 kilo, ça dépend de la taille sur laquelle ce poids va agir. Eh bien, cette masse donc de 100 grammes, mettons, s'introduisant dans le liquide, déplaçait le liquide. Le liquide entre immédiatement en expansion, mais emportait avec lui ce métal aluminium en poudre. Et au bout de quelques heures, ce liquide étant de l'asphalte, ces particules volatiles s'évaporant, laissaient donc cet asphalte se durcir petit à petit. On remarquait donc que le parcours de l'expansion restait imprimé sur la surface de la nappe liquide. Donc l'expérience était positive. Et ensuite, en procédant avec d'autres métaux, j'ai pu constater que l'expansion était plus ou moins accélérée. Donc, c'était en rapport direct avec la densité de chaque métal. Et on pouvait même mélanger les métaux et obtenir donc ce que j'appelais, par la suite bien sûr, pas un accident, mais toujours soumis à la simple loi d'expansion naturelle, eh bien, remarquer une accélération ou un ralentissement de l'expansion.
Est-ce que vous vous bornez à déposer le métal en poudre sur l'asphalte encore liquide? Et si vous vous bornez à le déposer, est-ce que je peux en conclure que n'importe qui à qui vous aurez montré comment le faire peut en faire autant?
Oui. Oui, évidemment, n'importe qui peut en faire autant. Ce que je voulais par là, c'est peut-être, oui, en somme, je vois, il y a, c'est presque un piège, une question pareille.
Absolument pas.
Non, je dis, c'est presque. C'est
non,
presque,
parce que, alors, vous me forcez à voler.
Attention, je ne veux pas dire que vous me tendez un piège, mais je veux dire une question pareille, peut-être presque un piège. Ça dépend qui l'écoute et avec quelle oreille on veut l'entendre. Il est évident qu'à partir du moment où j'interviens, forcément, il y a une personnalité qui se prononce. Mais également, ça dépend du sens et de l'importance que l'on donne à cette intervention, à cette personnalité par conséquent. Je crois que cette personnalité est absolument secondaire, le sens de cette intervention est absolument secondaire. Évidemment, il y a une instigation, il y a un déclenchement de cette mécanique qui va se produire sur ce liquide, mais ce n'est pas plus important que d'appuyer sur un bouton, par exemple. Et n'importe qui peut appuyer sur un bouton, ouvrir une porte. Et qui passe par la porte, c'est autre chose. Bon, enfin, de toute manière, dans tel cas, évidemment, n'importe qui peut, à partir du moment où on a vu, on a constaté comment peuvent se produire ces choses-là, eh bien, n'importe qui peut le faire, évidemment.
Donc, votre élaboration, c'est la mise au point d'un procédé.
La mise au point du procédé, oui, si l'on veut. Mais ce que je voulais ajouter à cela, c'est que n'importe qui peut en profiter. Ce qui compte de toute manière, c'est que l'homme ait pu le faire, et puis ensuite les hommes peuvent continuer à le faire. C'est plus du tout la même chose que lorsque un Michel-Ange prenait un bloc de marbre, intervenait lui-même, et toute sa science de tailler dans le marbre, son geste très dosé, lui permettait de conserver ce qu'il fallait conserver, et de ne pas passer outre mesure. Je crois que, justement, ce qui... comment pourrais-je dire ? Ce qui était important à ce moment-là, c'était en rapport à l'époque de Michel-Ange, où on voulait justement reconnaître et exclusivement le talent d'un tel homme et se refuser à admettre qu'il soit possible de faire la même chose que lui. D'ailleurs, il est vrai que les disciples de Michel-Ange n'ont pas fait exactement la même chose. Il est vrai que chez Michel-Ange, il y avait quelque chose d'assez unique, qui était probablement supérieur à ses disciples, c'est vrai. Mais toutes ces supériorités ont été vécues déjà par l'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup plus de générosité que de supériorité. Je le crois.
Vera Molnar, en quoi consistent vos recherches ?
C'est un peu difficile de répondre comme ça tout d'un coup. Je suis peintre. Et évidemment, je me débats avec les mêmes problèmes que tous mes collègues, ou enfin presque tous mes collègues. Pour entrer tout de suite au milieu de mon problème, sans introduction, un peu peut-être brutalement, mon problème et notre problème serait de trouver enfin une base, un système de règles, une grammaire de notre peinture qui est pour l'instant tout à fait arbitraire. Enfin, on aimerait, j'aimerais et nous aimerions sortir de cet arbitraire qui nous pèse bien sûr de plus en plus. Pour que je puisse un peu expliquer ce que je pense sur ces choses-là, permettez-moi de, en donnant la description de nos problèmes, de jeter un petit regard en arrière. Évidemment, mon problème, enfin, toute analyse diachronique est difficile parce qu'on ne sait pas trop bien choisir le point de départ de l'analyse. Mais puisque nous sommes déjà dans l'arbitraire, restons-y, je choisis Gauguin. Gauguin disait à ses disciples, en substance, que n'attendez pas que je vous corrige si vos bras sont trop longs ou sont trop courts, je vais vous corriger des fautes d'art. Mais qu'est-ce que c'est des fautes d'art? Personne ne le sait, Gauguin ne le savait pas non plus. L'arbitraire commençait à peu près à ce moment-là. Évidemment, mon point de départ est arbitraire. Les impressionnistes s'accrochaient encore à la représentation. Ils voulaient représenter, peut-être dans son instantanéité seulement, la réalité ou la nature, ou comme vous le voulez, mais ils avaient quand même un point stable. Mais du moment qu'on lâche la nature, qu'on s'occupe plus de la longueur du bras, pour revenir à Gauguin, évidemment, la question se pose, qu'est-ce qui nous reste ? On s'occupe plus de la nature, et on s'occupe que de l'art. Enfin, Gauguin veut corriger des fautes d'art. On arrive là à l'expression, parce que qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui reste? C'est un critique d'art qui a d'ailleurs, comme toujours, trouvé le mot. À la place des impressions des impressionnistes, il nous reste, nous avons maintenant l'expression. C'est un peu une trouvaille, ça a donné le nom de l'expressionnisme, ou à l'expressionnisme. Mais exprimer, c'est très joli, exprimer quoi? Enfin, la première idée serait exprimer la beauté. Mais non, pas du tout. Parce qu'à peu près à la même époque, Rimbaud disait qu'il était fatigué de la beauté. Et un tout petit peu plus tard, les dadaïstes, sous l'influence des nihilistes russes, se déclarait non seulement fatigué de la beauté, mais fatigué de toute la tradition artistique classique, de toutes les choses qui étaient admises jusqu'à ce jour-là comme valeur, comme beauté, y compris d'ailleurs l'expression. D'ailleurs, c'est le mouvement Dada qui est le plus représentatif de cet état d'esprit. On est arrivé à une table vide, à un papier vide, à une feuille de papier vide. Seulement, cette révolte radicale était peut-être plus conforme à la littérature qu'à la peinture. Si vous allez au musée d'art moderne voir l'exposition Dada, on se rend compte que toutes les choses qu'on y voit, toutes les choses qu'on admire, finalement, c'est de la littérature, ces choses-là. Si on pense au grand Marcel Duchamp, qui a envoyé un mobilier sanitaire à exposer en guise d'œuvre d'art, cette chose a pas du tout une signification plastique, ça a une signification littéraire. Donc, ce sentiment de cette révolte qui sert peut-être seulement à un départ, était partagée par les dadaïstes, par une partie des dadaïstes. Des gens comme Arp, comme Teuber, comme Hegeling, comme Richter, par exemple, se sentaient très vite pas concerné par cette révolte. Enfin, il disait textuellement que le scandale, ça ne nous intéresse pas. Il voulait faire quelque chose, il voulait. Et là, je reviens à mon idée. Déjà, eux, ils sentaient qu'il fallait trouver quelque chose pour repartir. Parce que détruire pour le plaisir de détruire, évidemment, c'est enfantin. Détruire pour avoir une place vide, pour recommencer à refaire quelque chose, ça se justifie. Mais casser, quand les choses sont déjà cassées, les casser encore en plus petits morceaux, c'est pas tellement intéressant. C'est pas... Alors, ce souci de trouver une base, de faire quelque chose, était aussi le souci de tous les grands artistes entre les deux guerres. Je pense là à Kandinsky, à Mondrian, à Moholy-Nagy, à Van Doesburg, qui étaient tous obsédés par cette idée de se fonder, de se baser sur quelque chose, d'avoir un pied fixe. Enfin, tous leurs écrits théoriques montrent que leur désir, c'était d'avoir quelque chose à partir de quel on pourrait élaborer quelque chose, avoir une grammaire. Quand on lit aujourd'hui leurs écrits, je voudrais pas dire quelque chose qui vous paraît un sacrilège, mais il y a évidemment beaucoup de bêtises. Par exemple, dans Clé, que j'admire beaucoup, beaucoup, quand on lit ses textes, son enseignement au Bauhaus, bah, évidemment, il y a là-dedans des choses un peu naïves. Mais ce qui était le tort de la génération, des peintres qui ont aujourd'hui 30, 40 ans, c'est de ne pas avoir compris le désir, enfin, la tendance de ces gens comme Clé, comme Kandinsky. Ils ont compris que ces théories, bah, ils ne nous donnaient pas de solution à nos problèmes, qu'ils ne nous donnaient toujours pas cette fameuse base dont nous avons tant besoin. Donc, ils ont un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est la direction, enfin la tendance, l'intention de ces hommes qui compte beaucoup. Et finalement, ça sera notre intention à nous aussi. Et parce que cette génération, enfin les peintres de 30-40 ans, se sont finalement attachés à continuer le côté destructif de Dada, le côté scandaleux de Dada. Enfin, si vous faites un tour dans les galeries de Paris, les choses que vous voyez, c'est soit des enfants et des petits-enfants de l'expressionnisme, enfin la lignée de Gauguin, ou alors les enfants et les petits-enfants de Dada. Bien sûr, c'est très amusant d'exposer des lunettes qui donnent une vision autre. C'est très spirituel. Ou exposer des voitures cassées et compilées. Ça peut avoir une signification, si vous voulez. Ou alors exposer le rien du tout, Yves Klein. C'est scandaleux. Mais enfin, c'est pas de l'art plastique. Enfin, il me semble tout au moins que c'est pas ça. D'ailleurs, je suis pas seule à penser ça, parce que ce même qui continue ce côté scandaleux de Dada, ils le font avec une mauvaise conscience. J'ai vu plusieurs fois une de nos vedettes de l'Opart, Dada, penchée sur un manuel édité chez Dunod de statistiques. Seulement, évidemment, c'était beaucoup trop difficile pour un débutant. Alors, incontestablement, le scandale, c'est plus facile. Il y a quand même des signes plus optimistes que ça. On rencontre souvent maintenant une peinture nommée « peinture programmée ». Bien sûr, c'est notre désir à nous tous. Programme, ça veut dire un peu base, règle, enfin quelque chose à partir de laquelle on pourrait faire du travail. Mais pour l'instant,
ça veut dire grammaire et syntaxe.
Oui, c'est ça, bien sûr. Mais ce qu'on voit pour l'instant sous l'étiquette art programmé, c'est pour l'instant, ça ne couvre qu'une bonne volonté, un désir.
Oui, parce que ça n'est pas de l'art programmé.
Ce n'est pas encore tout à fait de l'art programmé. Enfin, l'art programmé, ça dépend à quel point on veut être difficile. Parce que, par exemple, pour en revenir encore en arrière, Monet, vous vous souvenez certainement des meules qu'il a peint. C'est un art programmé, si vous voulez, parce qu'il a fait une toile d'une meule, ou de la cathédrale de Rouen, par exemple. Dès que la lumière changeait, il a pris une autre toile et l'a recommencé, et ainsi de suite. Enfin, il a fait toute une série, et son programme était de fixer la lumière de l'instant même le mieux possible, et ne pas changer, pas remanier la toile, mais refaire une autre. Enfin, c'est déjà, si vous voulez, un rudiment de programme. Mais enfin, ce que aujourd'hui nous nommons art programmé, c'est pas tout à fait ça encore. Pour qu'on puisse faire un art programmé, pour la peinture tout au moins, il fallait avoir quelques données, quelques paramètres solides. Il fallait savoir un peu. Prendre des paramètres arbitraires, c'est possible. Ça nous permet d'examiner une méthode. Mais enfin, ça nous avance peut-être pas beaucoup. Parce que le problème de la peinture, depuis toujours, c'est Vous avez une toile, vous avez dessus deux couleurs, deux taches, deux ronds, deux carrés, un bleu, un rouge. Puis, ben, c'est rien. Puis vous changez un peu le bleu, ben, c'est rien. Et vous changez encore. Et puis, il y a un moment donné, Dieu sait pourquoi, et ben, tout d'un coup, quelque chose se passe. Enfin, alors, évidemment, ce n'est pas un miracle. Alors, c'est justement là notre problème. C'est ça qu'il fallait comprendre, que pourquoi il y a deux couleurs ou cinq couleurs ou deux formes ou dix formes, et bébé, c'est rien. Et puis, tout d'un coup, il y a ce petit déclic, aussi bien chez le créateur, d'ailleurs, que chez le consommateur. Enfin, j'espère tout au moins que ça se passe aussi comme ça chez le consommateur. Et c'est justement ces choses-là qu'il fallait connaître.
Mais ça se passe dans chaque art. C'est le même problème en littérature, exactement.
Oui, enfin, ça, je connais nettement moins. Mais en peinture, je me souviens, au Beaux-Arts, j'avais un vieux maître qui était très, très, très sensible au problème de l'art. Il nous avait expliqué comment il fallait-il faire une nature morte. Alors, il nous avait dit, ben, vous prenez des bouteilles, et puis un cendrier, des lunettes, n'importe quoi, et puis vous les mettez, vous gardez ça. Puis vous voyez, vous vous rendez compte, c'est rien. Et puis vous poussez un peu les objets, c'est rien. Vous poussez encore. Puis il y aura un moment donné, vous allez vous rendre compte que là, c'est exactement le problème. C'est bon. Mais alors, comment faire? Ben, évidemment, dans notre monde aujourd'hui, où la politique est scientifique, l'économie est scientifique, la guerre s'évalue et se fait scientifiquement, quel bonheur d'ailleurs, il n'y a aucune raison que l'art échappe à cette loi. C'est tout à fait logique et ça va de soi que c'est grâce aux sciences qu'on va pouvoir approcher nos problèmes, qu'on va trouver les premiers éléments, les tout premiers éléments, il faut être modeste,
les
rudiments de la première grammaire dont on a parlé tout à l'heure. Et nous avons des exemples devant nous. La musique, que je connais d'ailleurs beaucoup moins, a fait beaucoup de progrès grâce aux mathématiques et en particulier grâce aux grands ordinateurs dont ils se servent. Il fallait faire un peu la même chose, pas tout à fait, puisque les deux choses ne sont pas pareilles. Il fallait faire la même chose en peinture. En plus, il y a encore d'autres sciences. Il y a, par exemple, la sociologie, la psychologie. La sociologie est une science qui s'occupe beaucoup aujourd'hui de peinture. La sociologie s'occupe surtout des phénomènes qui concernent toute la population. On fait des statistiques, des enquêtes, mais sur toute la population. Et évidemment, les résultats, enfin, les statistiques montrent que toute la population est très loin de s'intéresser ou d'être sensible ou de visiter des musées ou de, enfin, il y a un pourcentage très, très, très bas. C'est très décevant, les résultats de la sociologie. Et donc, eux, ils s'occupent surtout au niveau des récepteurs, le public. Et encore, ce petit groupe pilote, pour employer le jargon du milieu, qui est le groupe des connaisseurs. Ou alors l'autre groupe pilote qui est le groupe des créateurs, la sociologie s'occupe que tout à fait secondairement. Mais alors il y a là une science qui pour nous peintres peut apporter le plus, presque tout, bah, évidemment c'est la psychologie. La psychologie qui est la science du comportement humain est forcément aussi la science du comportement affectif. Et alors nous sommes au beau milieu du problème de l'art, enfin de la peinture pour l'instant. Et ceci sur deux niveaux. D'une part, sur le niveau du créateur, parce que la créativité, c'est un problème psychologique, donc ça intéresse absolument les psychologues. Et d'autre part, la réaction d'un homme devant un stimulus, son plaisir esthétique qu'il ressent, c'est encore éminemment un problème de la psychologie.
Bien, mais cette science de l'art qui vous est chère, quand pourra-t-elle naître?
Quand il y aura un dialogue entre les peintres, d'une part, les psychologues, les sociologues, évidemment les mathématiciens, etc., ben, ce jour-là, la science de l'art va naître.
Oui, mais ça suppose que les artistes apprennent un langage que, pour le moment, la plupart d'entre eux ne connaissent pas.
C'est ça, mais enfin, je crois qu'il y a déjà pas mal de peintres qui font un certain effort, comme je vous ai parlé tout à l'heure de notre artiste Hope Art, qui essaye quand même de consulter un manuel de statistiques. Enfin, je crois que nous sommes là à un point de départ très intéressant, tout à fait crucial, et que d'ici 10 ans, quand on refera une émission à la radio comme ça, on va pouvoir vous donner des résultats vraiment spectaculaires.
France Culture vous a présenté Arts plastiques et nouvelles techniques. Est à présent des recherches. Une émission de Georges Charbonnier. Avec la participation de Prodiaz, Vera Molnar, Philippe Muel, Gustave Saint-Gier et les voix de Jean Bazaine, Alfred Manessier, Georges Mathieu et Pierre Soulages. Réalisation Georges Gravier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 janvier 1967.